da 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 da.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et David Le Prince, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin, à la technique ce matin, Rémi Sistiaga. Où porter son regard cette semaine ? Sur le fameux début de Richard III de Shakespeare, où le futur roi qui donne son nom au titre explique l'origine de ses intentions funestes, soit la mort de tous ceux qui empêcheraient sa prise de pouvoir. Le duc, il est duc quand la pièce débute, souffre de sa propre laideur. Et comme il ne peut susciter l'amour, il choisira de cultiver la haine. Je vous lis quelques lignes de la traduction de François Victor Hugo, fils de Victor. « Moi, en qui est tronquée toute noble proportion, moi que la nature décevante a frustré de ses attraits, moi qu'elle a envoyé avant le temps dans le monde des vivants, difforme, inachevé, tout au plus à moitié fini, tellement estropié et contrefait que les chiens aboient quand je m'arrête près d'eux, eh bien moi, dans cette molle et languissante époque de paix, je n'ai d'autre plaisir pour passer les heures que d'épier mon ombre au soleil et de décrire ma propre difformité. Aussi, puisque je ne puis être l'amant qui charmera ces temps beaux parleurs, je suis déterminé à être un scélérat et à être le trouble fête de ces jours frivoles. » Auteur, scénariste, écrivain et mangaka, notre invité a publié une centaine d'ouvrages destinés à la jeunesse sous le pseudonyme de Monsieur Tan et notamment la série Mortelle Adèle, dévorée par des millions d'enfants. Adèle est connue, mais il y a aussi les séries Manoir Croquignol, Shaker Monster, Simon Portepoix ou 109 rue des Soupirs, je ne cite pas tout. Monsieur Tan est drôlatique et macabre, et quand il n'apparaît pas sous pseudo, il aborde la sombreur plus frontalement et parle de suicide, d'harcèlement ou d'agression sexuelle sans parade. En étant plusieurs auteurs en même temps, pour la jeunesse, pour les adultes, notre invité coïncide mieux avec lui-même et peut transmettre une pluralité d'émotions qui résonnera chez beaucoup de lecteurs.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Antoine Dole.
Bonjour Eva.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
C'est très frontal.
Ah bah oui.
Écoutez, je suis content. J'aurais préféré qu'on m'explique ce qui m'attendait.
Oh là là, qu'est-ce qu'on vous aurait dit ? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise comme mode d'emploi ? Qu'est-ce que vous vous diriez à l'Antoine Dole qui était petit ?
Ah, je lui dirais qu'il faut, il faut pas prendre le vivant comme content. Que le vivant, il s'apprend. Voilà, et que c'est un chemin d'apprentissage d'une naissance. C'est pas juste un instant T. C'est tout au long de notre vie.
Vous étiez, paraît-il, un adolescent plutôt angoissé et anxieux et dites avoir une sensibilité très à fleur de peau. Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
J'ai mis beaucoup de temps, je pense, à apprendre à manier cette sensibilité. Évidemment, quand on est adolescent et un âge de métamorphose et un âge de découverte du monde, de découverte de soi, c'est compliqué. Moi, j'ai une adolescence qui a été très chahuté par les problèmes de violence scolaire et par les violences tout court. Et c'est vrai que ça m'a pas appris forcément à emboîter cette sensibilité d'une façon très fluide au départ. Elle était au contraire quelque chose de très acéré et qui était un lieu de beaucoup de solitude.
Dans votre roman « Six pieds sur terre », il est écrit « Ce n'est pas facile, ça ne le sera jamais, mais ça vaut tout ce mal qu'on se donne, se sentir plus vivant que mort ».
Ouais. Et ben, ce roman, il s'appelle Six pieds sur terre parce que justement, je pense qu'on passe une vie à apprendre à marcher sur le chemin du vivant.
En fait, ce que vous appelez le vivant, c'est la pulsion de vie.
C'est le vivant
versus
pour
la
moi.
Pulsion de mort.
Ouais, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève ? Qu'est-ce qui fait pas juste qu'on se tient debout ? Qu'est-ce qui fait pas juste qu'on respire ? Qu'est-ce qui fait pas juste qu'on répond à des questions qu'on nous pose, mais qu'on les habite, qu'on les ressent, qu'elles viennent nous taper à un endroit de nous ? Qu'est-ce qui fait qu'on se connecte aux autres ? Qu'est-ce qui fait qu'on se connecte aux émotions, aux choses qui nous entourent ? Et je pense que le vivant, c'est ça pour moi. C'est cette vibration qui n'est pas toujours facile à atteindre, pas toujours facile à garder, pas toujours facile à conquérir.
Comment est-ce qu'on fait quand on est hypersensible et que tout heurte ? Comment est-ce qu'on apprivoise ça ? Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça ?
Eh bien, on pleure beaucoup. On s'entoure bien. On essaye, on espère qu'on s'entoure bien. Moi, j'ai la chance de m'être bien entouré de gens qui sont aussi respectueux de cette sensibilité, de ce qu'elle fait de moi et de ce qu'elle me permet d'accomplir. Vous parliez tout à l'heure de cette centaine de livres. Cette centaine de livres, elle n'existe que parce que cette sensibilité m'a permis à un moment donné d'être heurté par le monde et de vouloir lui répondre. Et c'est pas évident quand cette sensibilité, elle ne sert à rien. Quand elle est juste un espèce de ballon qui vous tape et qui rebondit et que vous n'arrivez pas à attraper. Mais quand vous arrivez à vous en saisir et à l'orienter, à la sculpter comme de la pâte à modeler, comme de la glaise, cette sensibilité, elle devient incroyable parce qu'elle devient le moyen d'exprimer des choses qui sont pas accessibles tout le temps.
Antoine Dol, ce qui vous donne envie de vous lever justement, c'est la création et le formidable terrain d'expression qu'elle offre quand on a longtemps pas su se dire. Et justement, votre parcours est vraiment encourageant, vous faites tant de choses et vous dites avoir arrêté d'écouter ceux qui vous disaient que c'était impossible.
Oui, moi j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont parlé des limites. Quand j'étais petit, j'étais un enfant plutôt calme, très souriant mais plutôt calme. Et puis j'ai grandi, puis il s'est passé des choses dans mon enfance, dans ma scolarité, avec beaucoup de gens qui d'un coup posaient des limites, me disaient « t'es trop ceci, t'es trop cela, on t'aime pas, tu devrais te suicider ». Ça a été de je crois que les années collège, ma survie aux années collège, elle a été absolument, pas un miracle, mais pas loin, parce qu'en fait tout était construit autour de moi pour que ce truc s'effondre sur ma tête. Donc ça a été effectivement complexe, mais à un moment donné, vous grandissez avec cette idée que bah vous serez toujours peu de choses et que ce que vous êtes ne fonctionne pas avec les autres et que et c'est là que j'ai créé Mortal Adèle. Mortal Adèle, je l'ai écrit quand j'avais 14 ans en réponse à ça. Et puis petit à petit, j'ai vendu des livres et puis j'ai écrit des livres et puis je me souviens au lycée quand j'avais fait lire ce que j'écrivais à ma prof de français, elle m'avait dit mais Antoine, vous ne publierez jamais de livres, vous êtes mauvais en grammaire, vous êtes mauvais en orthographe. Ça ne fonctionnera jamais, vous devriez trouver autre chose à faire. Et puis finalement, j'ai croisé plein de gens qui pensaient savoir ce que c'était que la littérature, qui me disaient pareil, qui me disaient « mais tu n'es pas assez académique, tu ne lis pas assez », etc. Et puis finalement, une centaine de livres publiés plus tard et 15 millions de lecteurs, et je trouve ma légitimité dans autre chose que dans le regard des autres. Et ça, c'est plutôt chouette.
Ouais. Alors, avant d'arriver justement au livre, est-ce qu'on pourrait parler du déclic que vous avez eu à l'adolescence, Antoine Dol, avec un prof qui un jour vous parle de mythologie égyptienne?
Oui, c'est vrai. En fait, moi, j'étais un très angoissé. C'est-à-dire que tout était sujet à me questionner, à me demander d'où allait venir le coup.
Ça s'est amélioré, ça, un peu?
Ça s'habille autrement. Voilà.
Ça met un chapeau.
L'art de la nuance. Mais ça prend d'autres formes. Et puis surtout, aujourd'hui, j'ai d'autres murs autour de moi. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de murs. Et donc, effectivement, un jour, on a ce cours d'histoire avec un prof qui nous parle de mythologie égyptienne et qui nous dit, alors, il nous parle des castes. Des différentes cases. Alors, s'il y a des spécialistes de la mythologie égyptienne, je vais leur demander d'arrêter de nous écouter parce que je vais sûrement dire des bêtises. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai retenu. Et que certaines castes n'avaient pas le droit de prononcer le nom des dieux, certaines castes sociales, parce que prononcer le nom des dieux, c'était une façon de les vider un peu de leur pouvoir et de leur substance. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu un vrai déclic sur la question de ces angoisses qu'on arrive à nommer et la manière dont le mot, finalement, devient une capsule. Une boîte dans laquelle on enferme une sensation et permet finalement de rendre le mot moins grand, moins immense, moins écrasant, mais au contraire nous permet de l'avoir dans la main et de le manipuler et presque de le ranger sur une étagère. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des listes de mots en fait. J'avais des carnets entiers où je faisais des listes de mots et tout ce qui m'évoquait était enfermé au moment où j'écrivais ce mot et c'est comme ça que j'ai appris à dompter un tout petit peu ces angoisses.
Et alors, avant d'écrire, vous vouliez devenir parolier?
Ouais.
Et vous avez beaucoup travaillé dans le hip-hop. C'est une phrase que j'ai lue, j'ai beaucoup travaillé dans le hip-hop avant.
Ouais.
Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des collaborations avec la rappeuse Sté, par exemple.
Avec Sté Strauss, on a passé beaucoup de temps en studio, en fait, à rencontrer des artistes issus de la scène hip-hop. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais être parolier parce qu'en fait... chez moi, on lisait pas de livres, mais on écoutait beaucoup de musique. On écoutait beaucoup de comédies musicales, on écoutait beaucoup de chanteurs à texte. Et c'est vrai que je suis pas venu à l'écriture par le livre, je vais pas vous mentir. Mon inspiration, elle est pas littéraire, elle est vraiment musicale. Cette envie de provoquer des émotions chez les autres par le texte, par le bon mot, par tous ces petits mots que j'ai sur mes étagères qui contiennent toutes ces émotions. Et effectivement, j'ai trouvé très vite le hip-hop hyper fort de ce côté-là, parce qu'il y avait cette capacité d'encapsuler des punchlines et des phrases qui d'un coup venaient frapper physiquement le corps quand on les écoutait. Et je trouvais ça très intéressant, moi qui étais très anxieux, très angoissé, dont le corps était constamment parcouru de sensations, de gargouillements, de tremblements, de frémissements, que d'un coup je trouve une expression qui venait fusionner à ça et qui permettait d'avoir une écriture qui était finalement faite de chair et de sang et très organique. Et le hip-hop m'a beaucoup aidé à avancer vers le chemin de la littérature. Alors voilà, le chemin est un peu complexe, mais et c'est vrai qu'avec Sté, on a travaillé sur un ouvrage qui est paru au Diable Vauvert, qui s'appelle Fly Girls, sur les femmes qui ont fait la culture hip-hop. Et j'étais passionné par cette figure. Moi, j'étais élevé par ma maman, et qui est une femme forte et qui a cette détermination pour aller vers le vivant, justement. Et j'ai toujours été fasciné par ces figures extrêmement puissantes, la Cassandre, la femme qui se dresse et qui voit le monde s'ouvrir à elle.
Dans un instant, peut-être qu'il sera question d'une autre femme forte, une sirène peut-être, je ne suis pas sûre, on verra si on a le temps, mais il sera en tout cas question de Roald Dahl, d'Howard Button, de Vampire, de Feuille d'Or et de Croque-Mort. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Joint doué, même le plus fort des hommes est loin d'être invincible. Et je me demande si on n'approche pas la perfection en acceptant qu'on l'est pas. En jean ou sur vêtements d'Arsenal, salut des gens qui portent bien plus qu'un seul masque. Nos émotions sont réduites au néant. Hey. Tu pensais être quelqu'un, t'es qu'une larme en plein milieu de l'océan. Forcément, y'a des requins dans leur camp, je le ressens, je suis différent. Hier ça jouait contre moi, aujourd'hui c'est une force de pas rentrer dans les rangs. Je resterai toujours tolérant, des âmes sensibles au bord du suicide. Des invisibles qui ont du mal à trouver leur place. Pareil que le monde est petit et qu'aujourd'hui c'est comme un sas. Même la plus forte des femmes est loin d'être invincible. Et je me demande si on n'approche pas du savoir. En sachant qu'on sait rien, toi et moi c'était bien, mais bien c'est pas suffisant. Il nous faut des grands moments, des surprises à chaque jour. Donc désolé pour ces larmes qui ont coulé sur nos joues. Demain tu m'en voudras plus, t'auras que des meilleurs jours. Tout cela à se comparer, donc on vit sous pression parfois. Pour monter haut c'est vrai qu'on doit toucher le fond. Tu peux pas gagner sans accepter que tout s'effondre. 1000 jours pour construire, puis tout peut brûler en quelques secondes. Si c'était si simple que ça, on aurait tous des vides fous. Des sourires sur nos lèvres déjà abîmés par le froid. Hey, laisse-moi mes jambes et change le monde. Je répondrai à mes questions avec de multiples. Réponse.
Devenir celui que je dois être. Devenir celui que je dois être. Devenir celui que je dois être. Devenir celui que je dois être.
Le morceau Être de Giorgio dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Antoine Doll, alias Monsieur Tan, qui aimerait modifier dans la société la perception que les gens peuvent avoir de ce qu'ils sont capables d'accomplir, montrer l'étendue des possibles plutôt que les limites. Ce que vous essayez de faire avec Mortel Adèle naît de votre colère adolescent, justement, puisque c'était ce double qui était capable d'exprimer ce que vous, vous gardiez enfoui.
Oui, j'étais coincé à cet âge-là dans une vision que les autres m'imposaient de moi. Ça a duré, je pense, bien de la 6e à la 4e, ou tous les jours, vraiment tous les jours. On critiquait qui j'étais et on m'encourageait à me suicider. J'étais frappé sur le chemin de l'école, j'étais frappé sur le retour de l'école, j'étais frappé à l'école. Donc, je crois que j'ai passé la quasi-totalité des récréations enfermées dans des toilettes au troisième étage. On m'a même fracturé le pouce parce que j'aimais dessiner et que ça m'empêchait du coup de le faire. C'était une période qui était complexe et étrangement, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. C'est-à-dire que pendant des années, pour moi, c'est resté assez anecdotique, c'est pas le mot, mais en tout cas, c'était un épisode qui n'avait pas de prise sur qui j'étais devenu. Et puis, je l'ai compris vraiment dans la trentaine. Je suis retourné dans mon ancien collège pour une intervention où il m'avait invité pour venir parler de la naissance de Mortel Adèle dans mes cahiers. Et en fait, je suis devenu tout blanc quand je suis rentré dans ce collège. Et la journaliste qui était avec moi m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, je le raconte. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience à quel point ça avait pu conditionner aussi mon rapport aux autres. cette impression de ne pas réussir à faire partie du groupe et d'être et la nécessité d'avoir à me construire en dehors, de réussir à me construire en dehors. Et donc, effectivement, Mortel Adèle, elle est née de ça, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est un outil formidable pour apprendre aux enfants à s'affirmer, pour apprendre aux enfants à pas souffrir du regard des autres. On dit qu'elle aime personne, mais Adèle, elle aime quelqu'un, et c'est très important, c'est qu'elle s'aime elle.
Ah oui, c'est rare d'ailleurs. Antoine Dole, justement, pendant cette période, quand vous vous y référez dans des interviews, vous dites « il y a plein de moments où je n'avais plus envie d'être là ». Et le suicide, c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre œuvre. Je pense par exemple à Six pieds sur terre,
je
votre œuvre.
Je croyais l'avoir bien caché.
Non, vraiment pas. Il y a un peu des néons. Dans Six pieds sur terre, où il y a cette tentation tout le temps, tout le long du suicide, dans votre manga Ningyo, où ça se passe dans la forêt des suicidés, et où il y a eu un suicide, le frère Okiga, du personnage principal. Quel est votre rapport à ça?
C'est un rapport qui est complexe, je ne vais pas vous mentir. Pendant des années, je crois que j'ai intimement détesté tout ce qui me liait au vivant, tout ce qui me liait à la vie. C'est-à-dire, toutes les rencontres, toutes les personnes importantes, à la fois je les aimais, à la fois j'avais ce pincement de me dire « si demain je choisis de partir, je ne pourrai plus, parce que tu es là ». Et c'est quelque chose qui a très longtemps été une équation assez dure à résoudre. Se réjouir des naissances, tout en étant quand même dans un coin de ma tête à me dire « zut, encore une raison de rester ici ». Et donc, je sais pas. Alors, j'en parle d'une façon très décomplexée parce que c'est un sujet qui parcourt ma vie et mes discussions depuis longtemps et mes romans. Mais je sais que ça peut choquer plein de gens quand on parle de cette question-là. Mais j'ai toujours trouvé que c'était en tout cas une possibilité. Voilà.
Oui, mais justement, c'est important d'en parler puisque vous êtes aussi l'exemple de quelqu'un qui choisit. Depuis votre naissance, qui choisit la vie.
Exactement. Mais je pense que c'est ce lien à l'enfance, en fait, qui est primordial. Moi, je suis fasciné par les enfants et leur capacité à toujours aller se saisir du matériel, du matériau qui va les garder sur le chemin de la vie. Quand on est enfant et qu'on vit des situations dramatiques, de violence, d'inceste, de tout ce qui peut être difficile dans la vie d'un enfant, on va chercher le matériau de la survie autour de soi. Majoritairement, il y a beaucoup d'enfants évidemment pour qui c'est tragique, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui trouvent le moyen de survivre, de traverser les choses. Et je trouve que adulte, quand on arrive à se pencher vers son enfance, on retrouve ce chemin-là, on retrouve ce matériau-là, et c'est aussi pour ça que il y a des textes moi qui me bouleversent quand ils parlent de l'enfance, parce qu'on parle de l'enfance comme vraiment d'un lieu de transformation et de réinvention de soi. Et d'ailleurs, quand vous êtes pas bien et que vous allez voir le psy, il soigne pas l'adulte de 40, 50 ans, il soigne l'enfant de 5, 6 ans à l'intérieur. Et je trouve ça fascinant. Et c'est pour ça que la littérature jeunesse, pour moi, c'est la plus magique.
Antoine Dole, quand vous dites il y a des textes qui me bouleversent, vous pensez auxquels, par exemple?
Je pense à un texte de Ward Button.
Ah oui, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Alors, on ne dévoile pas. On ne dévoile pas. J'ai lu quelque chose qui m'a amusée, c'est que donc Mortel Adèle, c'est 15 millions d'albums vendus dans le monde. Ouais. Et les tomes 1 à 7 sont illustrés par Miss Prickly, les tomes 8 et les suivants par Diane Lefeyer. Et c'est vous qui avez fait le premier croquis d'Adèle. Et pendant des années, vous avez mal vécu le fait qu'elle existe en dehors de vous.
Bah, c'est compliqué parce que... Alors moi, j'ai mal vécu le fait qu'elle existe tout court. Parce qu'en fait, moi, pendant des années, j'ai jamais pensé en faire une bande dessinée. Toute ma famille me disait « mais tu devrais en faire un livre, tu devrais en faire quelque chose ». Et moi, je dis « mais ça n'intéressera personne ». Ça n'intéressera personne parce que c'est tellement lié à ce que j'ai vécu à ce moment de ma vie. C'est tellement lié à ma colère adolescente, c'est tellement lié à ma détresse finalement d'arriver à créer quelque chose de plus fort que moi. Parce qu'Adèle, elle est née de ça. Elle est née un jour, j'étais dans les toilettes du troisième étage enfermé à attendre la fin de la récréation. J'étais en colère, je venais de me faire frapper, j'ai pris une feuille et je l'ai barrée avec un très grand coup de crayon. Et en dessous, j'ai dessiné deux yeux. Et c'est là qu'est née la barre de front d'Adèle et cette expression de colère. Et pour moi, ça ne pouvait parler qu'à moi. Et puis finalement, on m'a proposé d'en faire une bande dessinée. Et puis là, on s'est rendu compte que ça parlait à des enfants. Miss Prickly a redessiné le personnage. Diane l'a redessiné à son tour en 2014. Et c'était très dur parce que finalement, c'est tout de moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui... aujourd'hui, veut savoir qui je suis, peut prendre la main d'Adèle et le comprendre. Pour beaucoup, c'est une série rigolote. Pour beaucoup, c'est une série horrible avec une petite fille insupportable. Pour moi, c'est surtout une petite fille qui essaie de se lier aux autres et aux vivants sans avoir à renier qui elle est, sans avoir à renier ce qu'elle est. Donc, et je trouve que ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup.
Elle ne veut pas aimer non plus, d'ailleurs.
Elle a peur, peut-être.
Vous ne vous êtes jamais lassé d'Adèle ?
Jamais. Jamais. Je me suis lassé des histoires autour d'Adèle, pour être honnête, parce que un succès n'apporte pas que des choses incroyables autour de soi. Mais Adèle, jamais. Adèle, c'est ma fille de papier. Adèle, j'ai grandi avec elle depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 41 aujourd'hui. C'est un petit être qui fera toujours partie de ma vie. Et je pense que c'est même peut-être la dernière personne à qui je parlerai sur mon lit de mort. C'est sûr.
Antoine Dole, tout à l'heure, vous évoquiez la question des violences scolaires que vous avez subies. Vous avez écrit dessus, je pense par exemple à Copier 100 fois ou Naissance des cœurs de pierre. Est-ce que vous pensez qu'on puisse véritablement modifier quelque chose à ce niveau-là ? N'est-ce pas, hélas, un simple et triste constat de la nature humaine qui affirmerait qu'il y a toujours des persécuteurs et des persécutés ?
Alors, je suis d'accord avec vous sur le constat actuel. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'école en... Toutes ces histoires-là, c'était autour de 1995. Aujourd'hui, moi, une partie de mon travail, c'est de retourner dans les collèges et les lycées pour rencontrer des élèves. Et j'assiste aux mêmes violences. Donc, sur la question de l'agresseur... Cette société, elle est violente. Cette société, les cours de récré ne sont que le thermomètre des familles et de ce qui se passe dans les familles. Donc cette violence, elle existe de toute façon partout. Maintenant, ce en quoi je crois, c'est en notre capacité à équiper les enfants. À équiper les enfants de confiance en eux. À équiper les enfants de suffisamment de lumière pour apprendre à briller dans le noir. Et ça, je pense que c'est le vrai enjeu, il se trouve là, sur la question des violences scolaires. Il n'est pas de s'adresser aux agresseurs. On peut culpabiliser un gosse sur ce qu'il a fait, mais globalement, moi, ce qui m'a découragé totalement sur cette question-là, c'est de parler à mes agresseurs 20 ans plus tard et de me rendre compte qu'aucun ne se souvenait de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que la plupart m'ont dit « Ah bon, on t'a cassé le pouce ? Moi, dis donc, on a fait ça, je ne me souvenais pas. Est-ce que tu peux me faire une dédicace pour mon fils maintenant, s'il te plaît ?» Je pense que c'est pas tant du côté de l'agresseur qu'il y a des choses à faire, mais c'est vraiment du côté de l'enfant au sens large et enfin réussir à créer des générations qui sont en paix avec elles-mêmes, qui sont heureuses avec elles-mêmes. Nous, sur Adèle, on reçoit beaucoup de témoignages maintenant d'enfants qui nous disent « Avant, quand on me disait que j'étais bizarre dans la cour de récréation, ça me faisait de la peine. Maintenant, je trouve ça cool, parce qu'Adèle, elle est bizarre.
Ouais. »
Et ça, je trouve que c'est hyper puissant, hyper fort, et c'est une grande fierté pour Diane et pour moi de vivre ça au quotidien, de voir des enfants qui s'emparent de leur personnalité, qui se disent « Ok, je suis différent, mais demain, ça me permettra d'accomplir aussi des choses différentes. »
Découvrons votre panthéon artistique existentiel.
Si un pot de peinture tombe sur la tête d'un homme, c'est drôle. Si le pot fracasse son crâne et le tue en même temps, c'est tragique. Et pourtant, si un homme tombe dans une machine à faire les saucisses et est vendu à tel prix le kilo, là c'est drôle. Et c'est aussi tragique. Pourquoi est-ce drôle ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est dans ce périmètre très difficile à définir que se trouve le secret de l'humour noir.
L'écrivain britannique Roald Dahl introduit ses contes de l'inattendu à la télévision anglaise dans les années 70. Antoine Dole, vous avez choisi ses ouvrages et je ne peux pas m'empêcher de dresser un parallèle entre cette légende de la littérature jeunesse qui écrivait aussi des choses très noires pour les adultes et vous.
Oh bah, alors j'en serais extrêmement flatté. C'est surtout, je crois, Roald Dahl, pour moi, l'apprentissage de s'adresser aux enfants les yeux dans les yeux. Quand j'étais petit, en fait, moi je ne lisais pas du tout, j'aimais pas ça, j'avais l'impression que tous les livres étaient écrits par des personnes qui n'étaient pas là pour me parler. Et puis un jour, je suis tombé sur les livres de Roald Dahl grâce à ma grande sœur. Et d'un coup, j'ai eu l'impression qu'un auteur me prenait au sérieux. Était capable de dire, tu es un enfant et tu es complexe et tu vas comprendre. Et je peux te parler de choses horribles et c'est pas grave parce que tu sais que ce n'est qu'un livre et qu'on est ensemble pour s'amuser un petit bout de chemin. Et je trouve que dans les livres de Roald Dahl, on trouve tout. Tout ce que doit être un livre jeunesse. On trouve la peur, le rire... l'aventure, l'émotion, le voyage. Et ça m'a foutu une sacrée claque.
Roald Dahl disait qu'il avait préservé deux caractéristiques fondamentales de ses 8 ans, la curiosité et l'imagination. Est-ce que vous pourriez en dire autant, Antoine Dole ?
Ah, moi, je pense que c'est ce qui fait de moi un adulte aujourd'hui épanoui. C'est l'enfant. C'est toujours l'enfant. effectivement, tout se passe là. Moi, je pense que je suis un adulte très contemplatif, très qui s'assoit sur un banc et qui regarde le monde autour de lui, mais qui est habité par son enfant. Et c'est cet enfant qui va me faire me lever, courir après un ballon et vouloir manger une glace et remplir ma vie d'une sensation de contentement et de plaisir. Et c'est ça qui fait qu'on écrit et c'est ça qui fait qu'on est joyeux, c'est quand on veut partager ces émotions-là avec les autres.
Je crois que Wes Anderson s'apprête à réadapter de nouveau des nouvelles de Roald Dahl. Il y a une polémique en ce moment autour de lui, un peu pénible.
La censure ?
Ouais.
Oui, sur la censure, mais ça, c'est une polémique qui
existe
depuis...
On veut enlever des choses de traduction et
oui, bien sûr.
Du texte.
Après, je crois que l'éditeur français a décliné,
ouais.
Il me semble.
Ouais.
Ce qui est plutôt ouais. Chouette.
Oui.
Et moi, je pense qu'une œuvre, elle doit pas vivre plus loin que son auteur, au sens où l'enthousiasme d'un auteur ne doit pas être surpassé par la volonté ni d'une maison d'édition, ni il faut remettre vraiment la création entre les mains de son auteur.
Évidemment, comme on a grandi ensemble, géographiquement, mais aussi dans l'amitié, c'est une espèce de contrôle. On ne peut pas oublier son enfance parce qu'on en parle tout le temps. Ou même si c'est caché derrière dans ce qu'on dit par ailleurs, c'est présent, c'est absolument présent. C'est pour ça que j'ai jamais oublié. Tandis que je sais très bien que c'est une rareté. C'est rarissime d'avoir ses amis de petite enfance et c'est pour ça peut-être que les gens oublient.
Le psychologue, écrivain, acteur et clown américain Howard Button en 93 sur Radio Bleu au micro de Francis Colneau. Antoine Dole, vous avez choisi le roman paru en 81, Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. L'histoire de Gilles, petit garçon de 8 ans enfermé dans un hôpital psychiatrique pour trouble du comportement avec symptômes schizoïdes. Je fais les mouvements des guillemets. Suite à des jeux amoureux avec une petite fille. C'est un petit frère de l'Holden Caulfield de Salinger.
Oui, excuse-moi, je suis resté perturbé par ce que j'entendais de Howard Button.
Ah
que,
oui.
En fait, je bois absolument ses paroles. Enfin, je trouve ça à dire que l'enfance, on a grandi avec son enfance. Je trouve ça très beau. Et je trouve que c'est très beau, en fait, d'être des adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont été des enfants. J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps qui disait « Les adultes n'existent pas. Ce ne sont que des enfants qui essayent. » Et je trouve que c'est... malheureusement, j'ai oublié de qui elle est, je suis désolée. Mais c'est une phrase qui est magnifique parce que beaucoup d'adultes qu'on rencontre ont oublié qu'ils étaient des enfants. Et ce roman, moi, il m'a bouleversée. Alors, il m'a bouleversée quand j'étais enfant. Et d'en parler avec vous m'a donné très envie de le relire tout à l'heure. Et notamment une phrase qui est dans le roman et qui... Est-ce que je peux vous la dire ?
Ouais. Oui.
C'est un moment où le petit garçon parle. Alors, ce qui est super dans ce roman, c'est qu'Howard Button, il a même préservé les fautes d'orthographe, les fautes syntaxiques, etc. Et le petit garçon, il dit « Je suis resté assis sur mon lit très longtemps, assis comme ça, longtemps, longtemps. J'avais quelque chose de cassé à l'intérieur. Je sentais ça dans mon ventre et je savais pas quoi faire. Alors je m'ai couché par terre. J'ai tendu le doigt avec lequel il faut pas montrer. » Et je l'ai appuyé contre ma tête. Et puis j'ai fait poum avec mon pouce. Et je m'ai tué. Et cette phrase, elle m'a absolument tranché en deux. Tranché en deux parce que quand on est petit, on croit, en fait, au pouvoir de l'imaginaire sur le réel. Et c'est ce qui nous permet d'inventer la vie, c'est ce qui nous permet de s'inventer, c'est ce qui nous permet de nous transformer. Et que j'aimerais tellement que les adultes, aujourd'hui, retrouvent cette connexion avec le pouvoir de l'imaginaire. Le pouvoir de ce que l'imaginaire peut avoir dans une vie et la capacité qu'on a de transformer tout ce qui nous entoure constamment. Alors là, ce que je vous lis, c'est un extrait qui est tragique. C'est un petit enfant qui se donne la mort avec ses doigts sur la tempe. Mais imaginez tout ce qu'il pourrait faire de merveilleux d'autre.
En tout cas, ce livre n'a perdu aucune puissance. Je l'ai relu aussi pour l'émission. Et on continue à évoquer l'enfance avec vous, Antoine Dole, puisque dans votre panthéon, il y a aussi le Japon et le rapport de la création à l'enfance. Il y a énormément de références au Japon
oui.
dans votre œuvre, les mangas, la série For Life, Jizo, Ningyo, avec la mangaka japonaise Mato, les livres pour enfants comme Gadou découvre le Japon, le roman Ueno Park, le recueil de photos de figurines, Nendo
C'est
Stories.
C'est vrai que ça commence à faire
Mais
beaucoup.
Mais oui, je peux pas tout citer d'ailleurs. Vous y êtes allé souvent, notamment à Hiroshima.
Ouais, Hiroshima, ça a été une claque. Hiroshima, ça a été une claque. Moi, j'y suis allé 7 fois au Japon. J'y retourne bientôt. C'est un pays, je pense, comme beaucoup d'adultes de ma génération qui m'est venu par les dessins animés et le manga quand j'étais enfant. Et puis, j'y suis allé. Et puis, finalement, j'ai découvert autre chose. Moi, il y a plein de moments de ma vie, on en a parlé tout à l'heure, où les choses, elles ont été compliquées, où les choses ont pu s'arrêter, où j'étais pas sûr de pas être trop abîmé pour continuer à être vivant. Et c'est compliqué quand vous faites ce constat dans votre vie, de vous dire, est-ce que je suis pas trop abîmé finalement pour qu'on m'aime, pour accepter qu'on m'aime, pour m'aimer et pour continuer d'avancer. Et je suis allé à Hiroshima. Hiroshima, cette ville qui a été frappée par la bombe nucléaire, qui est la seule ville au monde à avoir été frappée par la bombe nucléaire. Et d'un coup, vous êtes dans les rues de cette ville qui est reconstruite autour de vous. Alors bien sûr, il y a le dôme de jade que vous pouvez aller visiter, qui est le seul bâtiment resté en ruine pour qu'on se rappelle de ce qui s'est passé, qui est entouré de fleurs. C'est très très beau et très douloureux à la fois, évidemment. Et vous marchez dans une ville où vous vous dites « Ok, tout a été détruit, tout peut se reconstruire et la vie peut reprendre. » Et le Japon, il m'a parlé à cet endroit-là. C'est-à-dire que le Japon, moi je le dis souvent en interview, c'est un pays qui est parcouru tous les jours par des séismes, qui est parcouru tous les ans par des typhons, à la saison des typhons, qui s'est construit sur ça, qui s'est construit sur ses vulnérabilités, qui s'est construit sur ses failles, qui s'est construit sur le fait que le sol tremble et que les immeubles sont conçus architecturalement pour fonctionner avec ça. Et ben, ça me va. Je me dis que ça me parle à l'âme, ce pays. Je me dis, ok, ça veut dire, Antoine, que tu peux te construire sur tes tremblements, tu peux te construire sur tes typhons, tu peux te reconstruire après les bombes nucléaires qui t'ont frappé, et tu peux être accueillant et faire pousser des fleurs, et tu peux être un endroit où les gens viendront se promener et vivre avec toi, et ça a été une énorme claque.
Le générique de la série Buffy contre les vampires de Joss Whedon, diffusé à la télévision entre 1997 et 2003 avec Sarah Michelle Gellar alias Buffy Summers, tueuse de vampires, dans la ville fictive de Sunnydale en Californie. Antoine Doll, vous avez inventé l'échelle de Buffy.
L'échelle de Buffy, très important quand j'étais adolescent avec mes amis au lycée, c'était qu'en fait, si l'échelle de Buffy, son mec c'est un vampire qui veut la bouffer dès qu'il s'embrasse, c'est la fin du monde tous les deux jours, elle est élue pour être de la chair à canon dans sa lutte contre les vampires par une espèce d'organisme légendaire, et elle habite sur la bouche de l'enfer, donc on peut pas faire pire comme vie adolescente. Et donc on avait créé cette liste de l'échelle de Buffy où tous nos petits problèmes en fait du quotidien, un peu comme sur les selles de Richter, avaient un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et si c'était pas au top sur l'échelle de Buffy, c'est que vraiment tu pouvais survivre aux choses.
L'embellie, Eva Bester.
Try Me de Georgia Smith dans l'embellie sur France Inter, et nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Doll. Voici la série que tout le monde devrait voir selon vous pour être armé dans l'existence.
Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière.
Nat.
Non ! Je refuse d'aseptiser ça encore plus.
Mais c'est le rituel.
Ah ouais ? Eh ben il est nul ton rituel. Ça sert à quoi cette salière, hein ? Hein ? À quoi ça sert ce cercueil hermétique, ce gazon artificiel autour de la tombe ? En bonté divine, ça ressemble à de la chirurgie, c'est propre, c'est aseptisé. C'est du business. C'était notre père.
Six Feet Under, série créée par Alan Ball et mettant en scène une famille de croque-morts à Los Angeles. Ball ayant choisi cette ville justement car c'est la capitale mondiale du refus de la mort selon lui. Et c'est un extrait du début de la série quand le père des deux héros est enterré et que l'un de ses fils, vous l'avez entendu, s'irrite que l'enterrement soit trop aseptisé. C'est un clin d'œil direct dans votre titre de roman, Antoine Doll, Six Pieds sur Terre.
Complètement, zut, vous l'avez découvert.
Wow, quel détective incroyable, vous pouvez mais louer mes services pour...
C'est vrai que cette série, elle a été hyper importante parce que la question de la mort et la manière dont finalement la mort n'empêche pas le vivant. Et Six Feet Under, c'est l'histoire d'une famille qui est morte à l'intérieur et qui vit dans la mort et qui fait de son commerce la mort. Mais pourtant, à qui il arrive beaucoup de choses et qui essaie de mille façons de regravir cette montagne. Je trouve que c'est assez encourageant aussi.
Justement, dans toute votre œuvre, pour enfants, autant que pour adultes, il y a la mort. Premier roman s'appelait « Je reviens de mourir », le court-métrage « Deadline », vos mangas, Jizo et Ningyo, bon, traitent de la mort. Mortelle Adèle. Pourquoi une telle obsession ? Tout à l'heure, on a parlé du suicide, mais là, je parle de la mort en général.
Ouais. Parce que là je viens de l'apprendre en fait, maintenant que vous le dites comme ça fait sens.
Non, vous étiez pas rendu compte de ça, non ?
Honnêtement, j'avais pas été si loin dans moi j'aime bien trouver des jolis titres.
Oui.
Et j'étais pas allé si loin dans effectivement maintenant qu'on met tout bout à bout. Non, je pense qu'il y a aussi une volonté de parler de choses dont on parle étrangement peu. Puisque la mort, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous.
Mais c'est très effrayant.
C'est très effrayant et en même temps, ça devrait pas. Ça nous laisse quand même le temps d'accomplir des choses et ça nous laisse quand même le temps de laisser une empreinte. Et peut-être que si on avait plus cette notion de fin en tête, on prendrait aussi le temps de faire des belles choses pour laisser derrière soi.
Vous avez peur de la mort, Antoine Doll ?
J'ai pas peur de la mort. Pour moi, la mort, elle existe relativement pas dans la mesure où... On reste des histoires dans la vie des gens et même quand on s'en va, on parle de Roald Dahl, on parle depuis tout à l'heure, on parle de gens qui ont accompli des choses et qui resteront à jamais des histoires dans la vie des autres et je trouve que ça c'est important, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est qu'est-ce que je resterai dans la vie des autres.
Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez répondu reconstruire autour de moi la maison que j'ai longtemps cherchée. Est-ce que vous avez toujours ce pendentif en forme de boussole autour du cou ?
Je l'ai enterré.
C'est vrai ?
Ouais.
Alors c'était le jour où vous sentiriez que vous avez trouvé l'endroit auquel vous appartenez.
Ouais.
C'était ça la condition pour l'enterrer, donc vous l'avez trouvé.
C'était ça la condition. Oula, ça me rend très, très, très émotionnel tout ça. Oui, en fait, j'ai longtemps cherché l'endroit auquel je pouvais appartenir et je pense dans tous les sens du terme. C'est une année qui a été à la fois très, très belle et très difficile cette année, puisque elle a été faite de beaucoup de combats et de conflits, elle a été faite de beaucoup de reconstructions et de réussites. Avec Diane, on a créé notre maison d'édition. Moi, j'ai mis, je pense, 12 ans à faire de l'édition pour me rendre compte que dans le mot maison d'édition, il y a le mot maison, et que c'était celui-là qui était important pour moi. À chercher la maison d'édition dans laquelle je me sentirais chez moi. Je me sentirais à ma place. Et je l'ai trouvé, et cette maison, je l'ai créée. Et j'ai construit mes murs, et j'ai construit ce sol et ce plafond pour y abriter mes héros de papier, mes enfants de papier. Et je suis ravi de partager cette maison avec des gens aussi importants dans ma vie que Diane, que Christophe, que tous les gens qui m'aident aujourd'hui dans mon travail.
Christophe le chanteur.
Tout à fait.
Antoine Doll, je vous ai demandé ce que vous aviez raté, et vous avez répondu appartenir au groupe.
Ouais.
Mais vous n'auriez pas une telle œuvre si vous aviez appartenu au groupe. Est-ce que là, en sachant tout ça, vous changeriez les choses si vous pouviez revenir en arrière ?
Non, parce que j'ai pas la sensation d'avoir échoué moi à essayer d'appartenir au groupe. J'ai la sensation que le groupe n'a pas forcément voulu me faire une place. Je sais pas ce que je pourrais changer, honnêtement. On me demande souvent ce que je voudrais dire à l'enfant que j'ai été. Je voudrais juste lui dire qu'un jour ça ira. Et je trouve que le symptôme le plus flagrant de ça, c'est que sur la couverture du tome 1, Adèle, elle est toute seule. Et sur la couverture d'un des derniers livres qu'on a fait, Le Show Bizarre, elle est entourée de plein d'amis qu'elle a réunis autour d'elle. Et cette aventure, elle n'a cessé de réunir autour de moi des gens. 15 millions de lecteurs, déjà, ce qui n'est pas rien. Diane, qui est devenue une grande amie.
Le chanteur Christophe.
Le chanteur Christophe. et tous les gens avec qui on travaille aujourd'hui et qui font que cette aventure, elle est devenue autre chose que ce qu'elle a été. Elle est plus de la solitude, cette aventure. Et effectivement, c'est peut-être le pouvoir de la bizarrerie quand on l'accueille, quand on l'accepte et quand on décide qu'on ne changera pas pour personne.
Retournons au Japon par une entremise musicale. Mélodie japonaise Haro no Umi de Mikio Miyagi et Masao Yoshida sur le titre Beau Soir avec Emmanuel Pahud à la flûte et Mariko Andrake à la harpe. Antoine Doll de Beau pour les auditeurs. Vous avez choisi une technique japonaise ancestrale du 15e siècle dont le nom signifie jointure à l'or.
Le kintsugi. Tout à fait.
En quoi ça consiste ?
Le kintsugi, c'est l'art de réparer des poteries cassées avec de l'or qu'on met sur de la colle. En fait, je trouve qu'on évolue dans une société aujourd'hui, on prend peut-être pas assez le temps de réparer ce qui est cassé. Quand quelque chose est cassé, on le change. Quand un objet est cassé, on le change. Quand une relation est cassée, on en change. Quand on est cassé soi-même, on a tendance à aussi chercher des raccourcis. Et je pense que la fêlure, la blessure, elle a tout son intérêt aussi dans cette reconquête de soi et dans cette reconquête de l'environnement autour de nous. Et le kintsugi consiste effectivement, quand on casse une poterie, à pas la jeter. Au contraire, c'est un art qui est fait par des artisans, qui étudie de longues années. Et ça prend du temps, ça prend des mois à faire un kintsugi. Donc on recolle chaque partie de la poterie ensemble et sur les fissures, on met de la poudre d'or. Et après, cette poterie a encore plus de valeur. Elles sont vendues encore plus cher puisqu'elles ont survécu au choc et qu'elles ont maintenant ces fêlures comme une médaille, comme un tatouage sur la peau. Et c'est finalement de ça qu'on est tous constitués, de cicatrices d'or. C'est comme ça que devraient être toutes nos blessures, elles devraient être devenues quelque chose de lumineux pour éclairer la suite.
On arrive à l'engagement que je demande de prendre aux invités à la fin de cette émission. Et à l'époque où on vous a envoyé le questionnaire, Antoine Doll, vous avez répondu que vous ne saviez pas, que vous ne preniez pas les engagements à la légère, donc que
jamais.
Vous verriez pendant l'émission.
Je ne fais jamais de promesses à la légère et je ne m'engage à rien si je sais que je ne vais pas le tenir ou que je ne peux pas le tenir, ce qui est à la fois très rassurant pour mes collaborateurs et très gênant, puisque je refuse beaucoup de choses. Et écoutez, je vis une période de transformation en ce moment. Je déménage, je crée ma maison d'édition, on vit de beaux projets, on se transforme et je voulais vous promettre d'essayer de profiter de ça et d'essayer d'être heureux avec ça. Voilà.
C'est joli, je prends cet engagement, je l'accepte. Et il nous reste 2 minutes pour aborder quelque chose que je trouve assez chouette aussi, c'est que votre premier roman, Antoine Doll, a failli être le dernier.
Ouais.
Et puis il y a un journaliste littéraire qui vous
Philippe
a dit...
Philippe-Jean Gattinqui.
Ah ouais. Voilà, on a le nom, qui vous a dit, je cite, « Ta gueule écrit sur un post-it ».
Exactement, et ce post-it est collé au-dessus de mon bureau. Là, j'ai déménagé, c'est le premier truc que j'ai emballé dans le carton de mon bureau. « Ta gueule écrit », c'était « Ne pense pas à ce que les autres disent, n'écoute pas ce que les autres disent, fais-toi confiance à toi et à ce que tu as à dire ». Et c'est ça ton rôle d'écrivain.
Et dans les rencontres littéraires qui vous ont encouragé à écrire, il y avait Roald Dahl qui vous a montré que la littérature pour enfants pouvait être sincère, et aussi Valérie Tonkong et Virginie Despentes.
Ouais, Valérie Tonkong, elle est venue dans mon lycée quand j'étais étudiant. Elle est venue dans mon lycée pour présenter son premier roman qui s'appelait Big, et de rencontrer une écrivaine qui arrivait avec un t-shirt de groupe de rock et des cheveux longs, et qui était ni un vieux monsieur, ni très mort, ni très cheveux blancs, m'a bouleversée parce que d'un coup je me suis dit « Ok, donc en fait, on peut écrire tant qu'on a des choses à dire et tant qu'on a quelque chose à raconter ». Et Valérie, elle a été adorable, elle m'a donné des conseils, elle m'a accompagnée. C'est quelqu'un qui a suivi mon parcours et je trouve ça beau, en fait, de se rendre compte à quel point la littérature, elle peut lier les solitudes entre elles et elle peut créer des passerelles entre les gens, entre les âmes. Et Et c'est merveilleux. C'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait, Valérie, ce jour-là.
Et Virginie Despentes ?
Et Virginie Despentes, moi je lisais pas de livres en fait, vraiment quand j'étais enfant. Et à l'âge de 17 ans, je suis rentrée dans une librairie et j'ai vu un roman sur une table qui s'appelait Baise-moi. Évidemment, quand vous avez 17 ans, vous regardez de quoi ça parle. Et je me suis dit, ok, on peut écrire comme on parle, on peut dire les choses avec de l'endroit où on se tient. On n'est pas obligé de faire de très grandes phrases très construites et très littéraires. On peut parler vrai, on peut parler avec son ventre. On peut écrire avec son ventre. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire mon premier roman.
Merci beaucoup Antoine Dole d'être venu partager tout
merci
ça.
Merci Eva, merci pour la bienveillance.
Mortel Adèle, le journal des bizarres, album rempli de jeux et surprises avec les dessins de Jan Lefeyer, vient de paraître aux éditions Monsieur Tan et Co. En novembre dernier, chez Actes Sud Junior, votre album Le Monstre du Placard déteste Noël, illustré par Bruno Salamone. Et chez Casterman, en septembre dernier, le tome 4 de Fantôme au tableau, 109 rue des Soupirs, illustré par Yomgi Dumont. À signaler aussi le podcast Mortel Adèle sur l'appli Gulli et un nouveau roman prévu pour le 1er juin. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre vie intérieure sera aussi profonde que celle d'un clou de girofle ensorcelé. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.